France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Réunis en conclave au Vatican pour élire un nouveau pape, les cardinaux procèdent à un premier vote. Cécile Bideau est en direct de Rome. Pluie de missiles et échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan. En représailles à l'attentat du 22 avril au Cachemire, l'Inde a aussi déclaré à son voisin la guerre de l'eau. Explication de Lisa Villy. En commission, les députés s'opposent à l'extension de l'aide médicale d'État à Mayotte. Une proposition de loi proposée portée par le groupe Liot pour désengorger l'hôpital. Analyse d'Antoine Marette. Et puis, s'y prend-on comme il faut pour encourager les filles à se tourner vers des formations scientifiques? Nous reviendrons sur les annonces de la ministre de l'Éducation avec Hakim Kasmi. Ils sont 133 cardinaux réunis à Rome dans le secret de la chapelle Sixtine pour désigner un successeur au pape François. Et ils resteront coupés du monde jusqu'à ce qu'une fumée blanche indique un vote concluant et donc la fin du conclave. Vous êtes en direct de Rome, Cécile Bideau, bonsoir.
Bonsoir.
Le premier vote est en cours, il se déroule, Cécile, selon un cérémonial très codifié.
Et oui, tout a commencé il y a un peu plus d'une heure et demie. Les cardinaux se sont recueillis dans la chapelle Pauline, à droite de la basilique Saint-Pierre, toute proche de la Sixtine, où ils se sont ensuite rendus en procession en chantant la litanie des saints. Prestation de serment sur l'évangile, les cardinaux s'engagent à respecter le secret du conclave, puis le maître de célébration prononce ces mots « extra omnes ». C'était il y a tout juste un quart d'heure. Les portes se sont fermées. C'est la dernière image qu'on a vue sur les écrans géants ici, place Saint-Pierre. Le vote commence donc sous la voûte de Michel-Ange. Ce premier tour de conclave va prendre un petit peu de temps. Chaque cardinal se lève dans l'ordre protocolaire, dépose son bulletin dans l'urne. Les noms sont prononcés à haute voix. Et si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, eh bien il y aura de nouveau des tours de scrutin demain, il y en aura 4. Les bulletins seront brûlés, ce qui donne la fameuse fumée qui informe les fidèles. Ce soir, ce sera sans doute noir, hein, le premier tour étant souvent considéré comme une primaire.
Et à l'extérieur, sur la place Saint-Pierre où vous vous trouvez, Cécile, y a-t-il du monde pour guetter déjà la fumée au-dessus de la chapelle ?
Oui, la place qui était assez clairsemée jusqu'ici commence à se remplir. À l'image des cardinaux, ce sont des fidèles ou des touristes de tous les continents. L'atmosphère est plutôt calme et recueillie. On a entendu quelques applaudissements au moment où on a vu les portes de la chapelle Sixtine se fermer. Dans une bonne heure maintenant, tous les yeux vont se tourner vers la cheminée installée pour l'occasion sur le toit de la chapelle Sixtine, qui semble minuscule vue d'ici. Petit secret de conclave, pour éviter la confusion entre fumée noire et blanche, ce sont des fumigènes qui sont désormais utilisés.
Cécile Bideau en direct de la place Saint-Pierre de Rome avec Benjamin Troncin à la technique. Les appels internationaux à la retenue se multiplient alors qu'Inde et Pakistan se bombardent et échangent des tirs d'artillerie. L'escalade des tensions fait suite à l'attentat du 22 avril au Cachemire indien. New Delhi a déjà riposté en suspendant le traité de répartition des eaux de l'Indus signé en 1960. Et un nouveau cap a été franchi hier quand le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que son pays allait couper l'eau des fleuves qui irriguent le Pakistan. L'Inde brandit l'arme de l'eau à chaque épisode de tension avec son voisin, mais n'était jamais allée aussi loin, les Avili.
Couper l'approvisionnement en eau du Pakistan, c'est la menace brandie hier par le Premier ministre indien Narendra Modi.
L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur. Elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays.
Les deux pays partagent un même fleuve, l'Indus, l'Inde en aval, le Pakistan en amont. Depuis 1960, un traité garantit son partage. Chaque pays contrôle 3 rivières. Mais à chaque flambée de tension, l'Inde menace de réviser cet accord. Elle l'a cette fois-ci bel et bien suspendu. Surtout, elle aurait réduit le débit de la rivière Chenab depuis l'attaque du 22 avril. C'est en tout cas l'accusation faite par Islamabad qui parle d'un acte de guerre pris très au sérieux dans un pays excessivement vulnérable, comme l'explique le chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique Franck Galland.
Environ 65% de la superficie du pays, dont la totalité de la province du Punjab, se trouve dans le bassin de l'Indus. Vous avez au Pakistan aujourd'hui l'un des plus vastes systèmes d'irrigation du monde, c'est 200 000 km, mais ce système d'irrigation est alimenté à 90% par les eaux de l'Indus. Toute action indienne aurait une incidence sur l'agriculture pakistanaise, l'économie pakistanaise. En plus, cette tension intervient en dehors des périodes de mousson, donc il ne pleut pas. Il faisait excessivement chaud ces dernières semaines. Ça intervient au plus mauvais moment.
Dans une région victime du réchauffement climatique, la volonté de l'Inde est aussi de sécuriser ses ressources en eau pour son propre développement.
Selon les secours locaux, 26 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza. L'Espagne va présenter une résolution devant l'Assemblée générale de l'ONU proposant des mesures d'urgence pour arrêter le massacre des civils et assurer l'entrée de l'aide humanitaire. Le président syrien est accueilli à l'Élysée. Nous reviendrons sur cette visite dans le journal de 19h. Emmanuel Macron a reçu plus tôt dans la journée le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de donner un nouveau départ à la relation franco-allemande et de parler d'une seule voix, malgré quelques dissonances, Louise Baudet.
Accolade chaleureuse sur le perron et déclaration au diapason. Friedrich Merz et Emmanuel Macron veulent retrouver le réflexe franco-allemand.
Nous voulons répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte. Nous voulons ensemble agir sur les sujets prioritaires à nos yeux, la souveraineté, la sécurité, la compétitivité.
L'Europe est confrontée à des enjeux énormes. Elle doit devenir plus sûre. Et pour relever ces défis, nous devons rapprocher nos positions, mais aussi trouver des compromis.
Premier sujet de convergence, l'aide à l'Ukraine et la défense européenne. Face à la menace systémique russe et au désengagement américain, Paris et Berlin vont renforcer le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui existe depuis 1988 pour mieux coordonner le soutien à Kiev et harmoniser l'achat de matériel militaire. Convergence donc, mais aussi compromis, car ce que les diplomates appellent pudiquement des malentendus sont loin d'être apurés. Exemple, l'accord commercial avec les pays du Mercosur, auquel Friedrich Merz est très attaché.
Vous connaissez mon avis personnel. L'accord Mercosur doit être ratifié au plus vite. C'est le bon moment pour signer de nouveaux accords de libre-échange.
Nous sommes pour les accords commerciaux. S'ils protègent les producteurs européens et leur assurent une égalité de traitement et de conditions d'opération. Et je suis convaincu qu'ensemble, par le travail qu'on mènera, on saura trouver les bons accords.
Pour Emmanuel Macron, l'accord n'est donc pas signable en l'état, preuve que le reset franco-allemand va nécessiter quelques ajustements.
Louise Baudet. L'Assemblée nationale sanctionne les députés Andy Kerbat de LFI et Christine Engrand, ex-RN, de la peine disciplinaire la plus lourde. Le bureau de l'Assemblée, l'instance la plus haute du Palais Bourbon, a choisi la censure avec exclusion temporaire pour les deux élus. Il leur est reproché d'avoir utilisé leurs avances de frais de mandat à des fins personnelles, sans lien avec l'exercice de leurs fonctions parlementaires. Ils seront donc privés de la moitié de leur indemnité parlementaire pendant 2 mois et exclus de l'Assemblée pendant 2 semaines. Bonsoir Mélanie Kuzelevitch.
Bonsoir.
Cette décision a été validée cet après-midi à main levée dans l'hémicycle par l'ensemble des députés présents, y compris par les groupes RN et LFI.
Oui, et cette sanction, c'est un message de fermeté envoyé par l'ensemble des députés aux Français, se félicite la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
C'est la peine la plus lourde disciplinaire que nous pouvons prononcer. Nous n'avons pas la capacité d'aller plus loin, mais c'est un message qui est très clair, qui est adressé aujourd'hui. Et vraiment, je me félicite de cette unanimité. D'aucuns pouvaient penser que dans un bureau ainsi composé, nous n'y parviendrons pas. Eh bien si, nous y parvenons parce que nous avons dialogué, discuté et que ces agissements sont suffisamment graves pour choquer l'ensemble de la représentation nationale, quel que soit le bord politique.
Pendant 2 mois, l'insoumis Andy Kerbrat et l'ex-RN Christine Engrand toucheront la moitié de leur indemnité parlementaire et ils ne pourront pas se rendre au Palais Bourbon ni participer aux travaux de l'Assemblée pendant 2 semaines. Une sanction appropriée, estime Éric Coquerel. Crel, député insoumis de Seine-Saint-Denis.
C'est une sanction qui est proportionnelle par rapport à ce qui s'est passé, voilà, qui n'était pas normal. Alors lui-même avait en réalité remboursé avant les frais, donc il avait anticipé les choses. Mais malgré tout, on ne peut pas considérer que c'est normal. Donc dès lors qu'il y avait un consensus pour une sanction qui était entre guillemets modérée, je pense qu'il fallait la voter. Oui.
Certains députés plaident quand même pour une nouvelle échelle de sanctions pour éviter ce type de situation. De son côté, Andy Kerbrat, le député LFI sanctionné, tient à préciser sur X qu'il n'est pas sanctionné pour avoir utilisé de l'argent public pour acheter des produits stupéfiants et assure de nouveau n'avoir jamais utilisé son enveloppe parlementaire pour financer son addiction. Mais il reconnaît dans un communiqué avoir commis des erreurs de gestion de son avance de frais de mandat et affirme qu'il acceptera la décision.
Les députés de la Commission des affaires sociales ont majoritairement voté contre la proposition visant à étendre l'aide médicale d'État à Mayotte ce matin. Le texte sera examiné dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Liotte le 15 mai. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Mayotte, c'est actuellement le seul département français où l'AME n'est pas appliquée. C'est donc ce que souhaite changer Estelle Youssoufa. Mais pour le moment, la députée Liotte n'a pas réussi à convaincre ses collègues.
Effectivement, l'aide médicale d'État, c'est ce qui permet aux étrangers irréguliers d'être soignés gratuitement en France, sauf à Mayotte qui est une exception. Et des étrangers en situation irrégulière, il y en a beaucoup à Mayotte, la plupart venant des Comores voisines. Sans AME, ils n'ont pas les moyens de recourir à la médecine de ville. Ils vont donc aux urgences de l'unique centre hospitalier de l'île. Résultat, les urgences sont complètement saturées et la situation financière de l'hôpital est préoccupante. Voilà pourquoi la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, souhaite faire voter ce texte.
Je ne débat pas ici de la pertinence de l'AME, je n'en débat pas, c'est pas le sujet. Le sujet de cette discussion, c'est un dispositif national dont Mayotte est exclue, alors que c'est le dispositif qui est censé répondre à une question migratoire. Dans le territoire où il y a la plus grave crise migratoire, on prive le territoire de cet outil.
Estelle Youssoufa est pour l'AME à Mayotte, ce qui ne l'empêche pas d'être très opposée à l'immigration comorienne. Car pour la députée Liotte, les Comoriens ne viennent pas à Mayotte pour se faire soigner. Selon elle, ils viennent incités par leur gouvernement pour obtenir leur droit du sol. Coloniser, c'est le terme qu'elle utilise, le département français pour asseoir la revendication territoriale des Comores. Une sorte de grand remplacement. Un argument qui ne convainc pas le RN, qui milite au niveau national pour la suppression de l'AME. La droite ne soutient pas non plus le texte, pas plus que la coalition présidentielle. La gauche, en revanche, va voter le texte tout en s'opposant au discours d'Estelle Youssoufa.
Antoine Maret, une nouvelle étape importante dans le dossier pénal du Lévothyrox, ce médicament produit par la filiale française du laboratoire Merck, est destiné à corriger l'hypothyroïdie. Il était utilisé quotidiennement par plus de 2,5 millions de patients quand le laboratoire a décidé en 2017 de changer sa composition. Dans la foulée, plus de 30 000 patients se sont plaints d'effets secondaires majeurs, maux de tête, insomnie, vertige, et l'affaire est arrivée devant la justice, Florence Turm.
Une dizaine de milliers de plaintes et une première action au civil dans laquelle le laboratoire Merck sera définitivement condamné pour avoir manqué à l'information des patients. Mais plus d'un millier d'entre eux décident par ailleurs de porter l'affaire au pénal. Le parquet de Marseille ouvre une enquête confiée à un juge d'instruction pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures et homicides involontaires. En 2022, les laboratoires Merck sont mis en examen pour tromperie aggravée dans un contexte particulièrement tendu, rappelle Christophe Legueval, avocat de près de 400 parties civiles.
Il faut se souvenir qu'en 2017, les malades ont été présentés comme étant des hystériques, des affabulatrices, des personnes qui racontaient n'importe quoi, et vous aviez d'éminents médecins qui venaient se moquer d'elles sur les plateaux de télévision ou dans la presse avec des tribunes offensantes. Et la science a avancé et a permis de démontrer que loin d'être des mensonges ou des affabulations, les troubles que ressentaient les malades étaient réels et avaient une cause scientifiquement établie. Tout cela aurait pu être évité si Merck avait fait son travail et si la NSM avait contrôlé ce travail. Ça n'a pas été le cas, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils doivent rendre des comptes au pénal.
Mise en examen contestée par Merck et la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient en revanche de les confirmer. Le juge d'instruction devrait donc pouvoir boucler son dossier d'ici la fin de l'année, espèrent les parties civiles, qui comptent aussi sur un procès au pénal à l'horizon 2026.
Les préfectures des Vosges et du Gard ordonnent à Nestlé le retrait des filtres interdits de ses usines sur les sites de Vittel et de Vergèze où est produite la marque Perrier. Fin janvier 2024, la cellule d'investigation de Radio France et le journal Le Monde avaient révélé l'usage de ces filtres dans le processus de mise en bouteille des eaux minérales du groupe Nestlé Waters. Bonsoir Marie Dupin.
Bonsoir.
Les dirigeants de Nestlé Waters ont été mis en demeure de retirer ces systèmes de filtration. C'est donc la fin d'une fraude cachée par le gouvernement depuis 2021.
Oui Aurélie, effectivement cette décision intervient, vous l'avez dit, plus d'un an après nos révélations sur la fraude mise en place par le groupe Nestlé dans ses usines françaises, des traitements interdits, dissimulés derrière des armoires électriques. Tout cela avait été soigneusement caché aux autorités sanitaires. En 2023, Nestlé avait obtenu du gouvernement et de l'Élysée en toute confidentialité une dérogation dérogation pour continuer à utiliser une partie de ces filtres, et ce malgré les alertes des agences sanitaires qui avaient indiqué au gouvernement que ce serait inacceptable. Cette fois, les préfets disent stop. La multinationale va devoir retirer tous ces filtres dans toutes ses usines, à Vittel dans les Vosges et à Vergès dans le Gard, où est produite la marque Perrier.
Et très concrètement, quelles vont être les conséquences sur la mise en bouteille ?
Il faut comprendre, Aurélie, pour répondre à cette question, que les filtres ont été installés par Nestlé pour purifier des eaux polluées, ce qui est contraire à la réglementation, puisque l'eau minérale naturelle doit être pure à la source. Or, dans le Gard, par exemple, on sait que tous les forages sont régulièrement contaminés par des pesticides et des bactéries. Les filtres permettaient de limiter le risque de contamination. Vous imaginez bien qu'avec le retrait de ces filtres, eh bien, maintenant, c'est la question du risque sanitaire qui est plus que jamais posée. Les marques du groupe pourrait aussi perdre leur qualification d'eau minérale naturelle. Dans les Vosges, Nestlé assure travailler à une alternative pour pouvoir continuer à produire ces marques d'eau. Dans le Gard, le préfet annonce qu'il se prononcera sur le maintien du label eau minérale naturelle avant le 7 août. Encore un délai.
Marie Dupin de France Info, merci beaucoup. Nous revenons maintenant sur le plan filles et maths présenté par la ministre de l'Éducation. Elisabeth Borne veut encourager les filles à se tourner davantage vers les formations aux métiers d'ingénieur et du numérique. Pour cela, elle a présenté différentes pistes et notamment la formation de tous les professeurs dès la rentrée prochaine aux biais et stéréotypes de genre. Alors comment ces annonces sont-elles accueillies par les enseignants, Hakim Kasmi ?
Former les professeurs des écoles et les enseignants de mathématiques dans le secondaire dès la rentrée pour lutter contre les stéréotypes et l'autocensure chez les jeunes filles, tel est l'objectif d'Elisabeth Borne. Mais pour être efficace, ces formations ne doivent pas se limiter uniquement en mathématiques, estime Claire Piolti-Lamorte, la présidente de l'association des professeurs de mathématiques.
Il nous semble aussi important, comme les filles, de pouvoir les inciter à aller davantage vers les sciences, que les garçons n'hésitent pas non plus à aller vers des filières littéraires. Il nous semble important que le genre pèse vraiment beaucoup moins dans le choix d'orientation des élèves. Et il nous semble pour ça que la formation, elle doit vraiment être à destination de tous les collègues.
La ministre de l'Éducation, qui souhaite également plus de filles dans les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, elle voudrait que leur nombre passe de 20 à 30%, et cela quitte à mettre en place des quotas, une décision que salue Dominique Bayarja, la vice-présidente de la Conférence des écoles françaises d'ingénieurs.
Dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, l'enquête GenderScan dit que 40% des apprenantes en école d'ingénieurs déclarent en 2025 qu'elles ont été dissuadées de s'orienter dans les filières donc scientifiques. Et donc ça, c'est impensable, inimaginable. Alors moi, je pense que c'est pas fait à mal, mais c'est des stéréotypes comme ça qui sont véhiculés. Une jeune femme, non, elle ne peut pas être PDG d'une entreprise, non, elle ne peut pas travailler dans une industrie automobile ou à l'aéronautique ou à la limite la chimie, la biologie, mais on est dans la préhistoire.
Enfin, selon le ministère de l'Éducation, il manque actuellement 20 000 postes d'ingénieurs, ce qui représente une perte de 10 milliards d'euros pour l'économie française.
Enfin, une disparition sous la coupole de l'Institut de France. L'académicien Angelo Rinaldi, journaliste, critique littéraire et écrivain, est mort à 84 ans. Il avait été élu parmi les immortels en 2001, après 35 ans d'une carrière de critique littéraire exigeante qui lui a valu beaucoup d'inimitié de la part du monde littéraire. Car Angelo Rinaldi s'est appliqué à respecter la maxime suivante, Adrien Toffolet, critiquer, c'est rompre.
Rompre avec l'air du temps, avec la mode littéraire qu'il a pourfendue dans les colonnes de l'Express, du Nouvel Observateur et du Figaro littéraire, en s'attaquant à la quasi-totalité de la littérature française de la seconde moitié du XXe siècle. Angelo Rinaldi, c'est un style unique, un sens de la formule qui transforme en particulier les critiques négatives en jeu de massacre. Dans les années 70, Angelo Rinaldi a notamment pour cible Alain Robbe-Grillet et le nouveau roman qu'il résume à un épisode de l'éternelle littérature mondaine où cuistres, oisifs et impuissants s'illusionnent sur eux-mêmes en se raccrochant à l'élaboration de recettes. Modiano, Le Clésio, Duras, Kundera sont régulièrement victimes de sa plume, tout comme Philippe Solers qui disait de lui qu'il était un obscurantiste de service. Un rôle de méchant puriste qu'il a accepté tout en déplorant qu'on ne donne pas autant de crédit aux louanges qu'il pouvait aussi chanter. C'est ce qu'il expliquait à Olivier Germain Thomas dans l'émission Fort Intérieur sur France Culture en 2006.
Le lecteur aime le sang, normal, mais je ne compte plus les Ginris et Elisabeth Taylor, des Français comme Augéras, comme le poète Olivier Laronde et François-Olivier Rousseau. Voilà. Bon, bien sûr, ça, on me les accorde pas, mais on se souvient de certains papiers qui étaient négatifs et qui s'efforçaient de ne pas être trop ennuyeux en même temps.
Donc une part de jeu.
Oui, bien entendu, une part de jeu. dont peuvent faire les frais, je crois, sans trembler, des gens qui sont couverts de livres, d'essais, de lecteurs, de tout ce que vous voulez.
Des écrivains puissants, les intellectuels et les gros vendeurs qui, à ses yeux, ne respectaient pas la littérature. Lui qui, fils de berger corse, a été récompensé du prix Femina pour son livre « La maison des Atlantes » en 1971 à l'âge de 31 ans et qui a signé tout de même 15 romans au total, mais a toujours rejeté pour lui l'étiquette d'écrivain.
Adrien Touffolet, le ciel sera nuageux demain matin sur les trois quarts nord du pays. L'après-midi, il fera très gris sur le centre avec des averses sur le relief. Les éclaircies l'emporteront près de la Méditerranée, mais aussi de la Normandie à l'Île-de-France et aux frontières nord. Les températures seront comprises entre 4 et 12 degrés au petit matin. Elles atteindront 14 à 22 l'après-midi des côtes de la Manche au pourtour méditerranéen.